Monsieur le Président, cher Jean-Jacques, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci beaucoup pour cet accueil. J'avoue que tout à l'heure, quand il a été question de terminologie anglaise, vous m'entendez si je parle comme ça? J'ai frémi à l'idée que notre directeur pourrait nous dire, eh bien, si vous ne voulez pas de pointe, nous appellerons cette exposition imprimatur, parce que là, ça aurait fait catholique. Ce que notre monde doit à la réforme. Il est plus difficile, à la vérité, il est très difficile d'imaginer un titre qui serait plus prétentieux que celui-ci. Jamais, jamais au grand, jamais aucun réformateur ne s'est un jour réveillé à l'idée grandiose qu'il était appelé à apporter quelque chose au monde. Jamais, aucune des figures dont ce musée contribue à conserver la mémoire, n'a cherché à entrer dans l'histoire. Deux historiens, l'un de Luther, l'autre de Calvin, vont sans tarder nous en convaincre. Il y a bientôt un siècle, Lucien Febvre mettait radicalement en question les lectures qui se réclamaient, disait-on, du matérialisme historique. C'était un historien qu'on appellerait aujourd'hui en France laïque, au sens où il ne se revendiquait d'aucune chapelle religieuse. Or, Febvre remettait précisément l'Église au milieu du village en écrivant ces mots qui sont souvent cités: Ce qui importe à Luther de 1505 à 1515, ce n'est pas la réforme de l'Église, c'est Luther. C'est l'âme de Luther, le salut de Luther, cela seul. Et du reste, n'est-ce point là sa grande, sa véritable originalité? Voyez, ce Luther qui se bat pour le salut de Luther, ce Luther qu'angoisse le devenir de Luther devant Dieu, ce Luther n'est certainement pas un homme à se demander quand il se regarde le matin dans une glace ce qu'il pourrait bien apporter au monde. Et le Luther d'après 1515, celui qui fait, en lisant l'Épître aux Romains, la découverte herméneutique fondamentale de la réforme, à savoir que la justice de Dieu, ce n'est pas une instance qui nous menace, mais que c'est un don que Dieu nous fait. Ce Luther que n'inquiète plus l'angoisse de son salut, il ne lui importe désormais qu'une seule chose: faire comprendre à ses contemporains que Dieu leur parle dans leur langue, leur faire comprendre que leur liberté a son fondement dans l'Écriture et qu'ils ne sont pas tenus d'obéir aux yeux, les yeux fermés au pape ou au concile. Ce Luther-là non plus ne cherche pas, au sens strict, à apporter quelque chose au monde, sinon ce que l'Évangile, vieux d'un millénaire et demi, lui a déjà apporté. Second exemple, un peu plus récent, un historien de Calvin cette fois, quand Thomas Parker, grand historien de la prédication chez Calvin, se demande ce qui a bien pu pousser Calvin à prêcher autant qu'il l'a fait, à peu près 4 000 sermons, estime-t-on à Genève, 4 000 sermons entre 1541 et 1564. Et de la manière qu'il l'a fait, quand Parker se demande quel but Calvin cherchait bien à atteindre, est-ce que ce serait par hasard transformer le monde, il corrige aussitôt, avec un bon sens que je crois typiquement anglo-saxon, cette question mal prêchée, mal posée, pardon, et je le cite: Calvin a prêché comme il l'a fait pour la bonne raison qu'il croyait en ce qu'il faisait. Voyez, pas davantage que Luther n'a cherché à transformer le monde, Calvin n'a jamais, jamais envisagé sa prédication quotidienne comme un outil au service de je ne sais quelle transformation du monde ou projet de société. Si Calvin prêchait, c'est pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, parce que pour lui, annoncer l'évangile est une nécessité qui s'impose à lui. Pour le dire en d'autres mots, il n'est aucun réformateur qui, entrant ici ce soir, ne nous enguirlanderait de vouloir parler de ce que le monde doit à la réforme. Avec une belle, avec une rare unanimité, Luther comme Calvin nous dirait que seul l'Évangile a pouvoir de transformer le monde, que seule la révélation divine apporte réellement quelque chose au monde. Or, s'il nous est aujourd'hui difficile de résister à la tentation d'envisager chez les réformateurs une volonté de transformer le monde, c'est que nous venons bien après la réforme, 5 siècles, nous dit-on cette année, et que nous constatons, après coup, que le monde a bel et bien été transformé par les convictions et par les actions des réformateurs, qu'il ne l'ait sans doute pas voulu ainsi, dans tous les cas pas au sens où ils auraient cherché à marquer l'histoire de leur empreinte, ne nous interdit pas aujourd'hui de regarder en arrière et d'essayer de mesurer ce que notre monde doit à la réforme. Ce faisant, nous n'avons pas ici, en quelques minutes, la prétention de dresser l'impossible tableau des lignes de force de la réforme dans ses dimensions théologiques, sociales ou politiques, mais bien de braquer le projecteur sur quelques éléments qui nous paraissent aujourd'hui pertinents de notre point de vue à nous, habitants de l'année 2017. Et c'est ainsi que je vous propose d'en retenir 3. D'abord, le plaidoyer pour la liberté de conscience. Ensuite, la valeur de l'individu. Et enfin, ce qu'on pourrait appeler les conditions de possibilité de la naissance de la tolérance. Le plaidoyer d'abord pour la liberté de conscience. On pourrait discuter sans fin de la date de naissance de la réforme. Peut-être que l'une des dates possibles serait non pas la publication des thèses de 1517, mais bien le discours que Luther tient à la Diète de Worms le 18 avril de l'année 1521. Luther apparaît ce jour-là à Worms, devant tout ce qui compte dans le Saint-Empire romain germanique. Les puissances qui forment la Diète impériale, l'empereur lui-même, le jeune Charles Quint, le premier homme au passage dans l'histoire de l'humanité qui pouvait prétendre régner sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Il y avait aussi l'ambassadeur du pape, le nonce apostolique Jérôme Aléandre, et l'un des plus grands théologiens d'alors, Johannes Eck, de la faculté de théologie d'Ingolstadt, l'homme même qui avait été l'artisan, quelques mois plus tôt, de la bulle d'excommunication de Luther. Le discours de Luther est fameux. Il explique pourquoi il n'entre pas en ligne de compte pour lui de rétracter ce qu'il a écrit dans ses livres. « J'ai peut-être été ici et là, dit-il, je le cite, plus acerbe qu'il ne convient » à un homme qui a fait profession de religion. Et il reconnaît avoir peut-être été un peu trop polémique. Mais il ne rétracte rien. À la rigueur, Luther serait prêt à reconnaître ses erreurs si on lui opposait des écrits prophétiques, entendons l'Ancien Testament, ou des écrits évangéliques, entendons des textes du Nouveau Testament. Et c'est alors que Johannes Eck se fâche et réclame de Luther une réponse directe, il le dit ainsi, une réponse simple et sans cornes. Luther va répondre. Et il va dire ces mots puissants, qui sont dignes de figurer dans toutes les anthologies de la rhétorique et qui comptent, c'est ma conviction personnelle, parmi les mots les plus importants qu'il ait jamais été donné d'entendre au cours des 1000 dernières années. Je vous cite ces quelques phrases de Luther. Puisque votre sainte majesté et vos seigneuries redemandent une réponse simple, je vous la donnerai sans cornes ni dents. Voici. À moins qu'on ne me convainque par les témoignages des Écritures ou par une raison évidente, car je ne fais confiance ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes,
Je suis vaincu par les Écritures que j'ai citées, et ma conscience étant captive des paroles de Dieu, je ne puis ni ne veux rétracter quoi que ce soit, car agir contre sa conscience n'est ni sûr ni honnête. Je ne peux pas faire autrement. C'est là ma position. Que Dieu me soit en aide. Amen. Vous l'avez entendu. Je suis vaincu par l'Écriture. Si Luther apparaît comme un homme éminemment libre, c'est en cela, paradoxalement, qu'il se reconnaît d'abord éminemment soumis. Comme le vassal qui a fait allégeance à son suzerain, Luther est serviteur de la Bible. Et ce n'est qu'à ce titre, mesdames et messieurs, qu'il ose se déclarer en conséquence libre face à toutes les instances humaines qui se trouvent comme concentrées dans ce palais de Worms où se tient la diète. Sa conscience, la conscience de Luther, captive des paroles de Dieu, est libre vis-à-vis du pape et vis-à-vis de l'empereur. Or, cette liberté est précisément la source qui remplit la conscience de joie, comme Luther l'avait écrit 2 ans plus tôt dans son commentaire aux Galates. Je le cite encore. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, elle rend les consciences joyeuses, ouvertes, sûres face à Dieu, car c'est la parole de grâce, de pardon, qui est bonne et agréable. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, elle rend les consciences libres, ouvertes, joyeuses. En d'autres termes, Luther, à l'inverse d'on ne sait quel héros prométhéen, renonce à s'appuyer sur soi-même ou sur ce que l'un de nos contemporains aujourd'hui appellerait peut-être sa propre conscience libre pour se fonder sur l'Écriture. Et c'est ce qui autorise précisément la liberté. Voici ce qu'il dit dans une autre édition du commentaire aux Galates qui date celle-là de 1535. Je cite encore Luther. Et voilà pourquoi notre théologie est certaine. Elle nous arrache à nous-mêmes. Notre théologie nous arrache à nous-mêmes et nous établit hors de nous pour que nous ne prenions pas appui sur nos forces, sur notre conscience, sur nos sens, sur notre personne, nos œuvres, mais que nous prenions appui sur ce qui est en dehors de nous, la promesse et la vérité de Dieu qui ne peuvent tromper. D'un côté, Luther dit à Worms, agir contre sa conscience n'est pas honnête. Mais cela n'implique pas de l'autre côté que l'on doive rendre en culte à la conscience. Notre théologie, dira Luther, ne s'appuie pas sur notre conscience. Elle nous sort de nous-mêmes pour nous appuyer en Dieu. Mais cette liberté de la conscience, appuyée sur la Bible, va autoriser pour Luther la contestation du pouvoir établi. Or, mesdames et messieurs, cette contestation, c'est aussi ce que l'on trouve moins de 2 ans plus tard chez Zwingli, c'est ce que l'on trouve chez Calvin, ce que l'on trouve chez Théodore de Bèze. Dans l'un des articles de foi qu'il présente lors de la dispute de Zurich en janvier 1523, Zwingli affirme clairement que les pouvoirs du roi ou du seigneur ne sont pas sans limite. Calvin, un peu plus tard, dit clairement « On est tout à la fin de l'institution », je parle de la version de 1559 en latin ou de 1560 en français, que, et je cite Calvin, « Si les supérieurs viennent à commander quelque chose contre Dieu, cela nous doit être de nulle estime, et il ne faut avoir en cela aucun égard à toute la dignité des supérieurs. » Quant à Bèze, il a, dans son livre intitulé « Du droit des magistrats », cette belle formule que l'on retrouvera quelques années plus tard dans la Déclaration des États généraux des Provinces-Unies de 1581, et cette déclaration qu'on peut lire, car elle est gravée sur le mur des réformateurs, à condition toutefois d'entendre le néerlandais. Mais je vous la cite en français. Les peuples ne sont pas créés pour les magistrats, mais au contraire, les magistrats pour les peuples. Comme le tuteur est pour le pupille, et non le pupille pour le tuteur. Et le berger pour le troupeau, et non le troupeau pour le berger. Voyez, c'est cette contestation du pouvoir qui constituera, au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'un des ressorts de la réflexion politique européenne. C'est cette contestation qui, après 1000 détours, dans lesquels il n'est pas possible de se laisser entraîner ici, et qui nous imposerait de nous arrêter quelque temps à John Locke en Angleterre, ou à Jean-Jacques Rousseau, plus près de chez nous, c'est cette contestation qui permettra bel et bien, dans un autre contexte, l'émergence de l'idéal démocratique. Ainsi, dire que notre monde aujourd'hui doit quelque chose à cet homme de 38 ans qui, en avril 1521, tient tête à Worms, à l'empereur et au pape, ce serait une formule bien faible. Sans en avoir toujours conscience, je crois que notre monde doit considérablement à cette posture de Luther qui, au nom de la liberté souveraine qu'il trouve car il est fondé dans l'Écriture et qu'il se déclare le serviteur de l'Écriture, cette liberté qu'il fait valoir face à toutes les instances humaines. Notre deuxième paragraphe sur la valeur de l'individu sera un peu plus bref, car on a déjà tout dit, ou presque sans doute, sur le sens de l'individu de la réforme, qui est responsable devant Dieu, qui est capable de s'adresser directement à Dieu sans passer ici-bas par l'intermédiaire du clergé, sans passer dans l'au-delà par l'intercession des saints. En mettant en question la valeur des indulgences, comme il le fait le 31 octobre 1517, Luther montrait déjà la pente qu'il allait suivre et qui le conduisit quelques années plus tard, par exemple dans son livre sur l'abus de la messe, à abandonner définitivement le principe même des indulgences. Or, en renonçant à définir l'humain par les œuvres qu'il produit, mais en le définissant au contraire par le don qu'en amont Dieu lui fait, Luther allait contribuer, et dans une grande mesure, à fonder ce qu'on peut appeler la valeur de la personne. Voyez, c'est ce thème auquel les théologiens ont donné le nom, sans doute trop technique, de justification par la foi. Au siècle dernier, Paul Tillich estimait que l'expression de justification par la foi avait été tant répétée et tant galvaudée que même les étudiants en théologie ne la comprenaient plus. Et c'est ainsi que Tillich avait proposé, dans Le Courage d'être, publié en 1952 et qui est l'un des plus grands livres de la théologie du XXe siècle, c'est ainsi qu'il avait proposé de traduire le concept de justification par la foi par une autre formule qui était celle-ci, avoir le courage de s'accepter soi-même comme accepté en dépit du fait qu'on est inacceptable. Or, si l'on peut accepter d'être accepté, c'est bien parce que la logique de Dieu n'est pas celle des humains. Dans une conférence, une controverse qui a été tenue en mai 1518 à Heidelberg, Luther défend en effet l'idée que l'amour de Dieu est dans tout autre ordre que l'amour humain. Voyez, tandis que nous autres, humains, aimons quelque autre personne parce qu'elle est aimable, tandis que nous aimons une chose parce qu'elle a des qualités, que ces qualités soient de façon prosaïque, sensuelle, visuelle, auditive ou gustative, j'aime tel vin, tout simplement parce qu'il est bon, eh bien, Dieu n'aime pas tel objet parce qu'il est aimable, mais en dépit du fait qu'il ne l'est précisément pas. Et c'est ce que dit Luther à la suite de l'apôtre Paul. Dieu aime les pécheurs, il aime les mauvais, il aime les insensés, les faibles, de telle sorte qu'il les rend justes, bons, sages, forts. Fin de la citation de Luther. Le Dieu de Luther diffuse ainsi sa bonté. Dieu ne m'aime pas parce que j'aurai quelque mérite à faire valoir devant lui. Il m'aime parce qu'il est Dieu. Ainsi, face à tout système qui conférerait à l'individu une valeur dans la mesure et seulement dans la mesure où cet individu concourt au bien de l'ensemble, pensons à l'individu des régimes totalitaires du siècle dernier, des individus que le pouvoir peut utiliser à sa guise et qu'il peut aussi écraser, eh bien l'anthropologie de Luther contre une telle conviction est une arme prodigieuse au service de la valeur de l'individu. Ce que tous les chrétiens allemands étaient loin d'avoir compris entre 1933 et 1945. Si l'on voulait considérer que telle personne impropre à la production n'a pas sa place dans la société, si l'on voulait estimer que le vieux ou le malade ou la personne handicapée ne mérite pas d'être traité avec les mêmes égards que le jeune ou le bien portant, eh bien, on aurait contre soi toute la théologie de la réforme. Ce ne sont pas les œuvres qui font la valeur de la personne, cette valeur, c'est Dieu qui la lui confère. Là encore, on mesure combien une conviction théologique, quand elle est vivante, est en prise avec la réalité. Ni Luther, ni Calvin, ni aucun réformateur n'apprécie ces spéculations intellectuelles qui n'ont rien à voir avec la réalité quotidienne que vivent les humains. Dans ses commentaires et plus encore dans ses sermons, Calvin insiste à chaque instant sur le profit que l'on doit trouver dans le texte biblique, c'est-à-dire sur les liens entre la théorie et la pratique. Vous voyez donc que la justification par la foi, puisqu'il faut l'appeler par son nom, est une doctrine théologique qui a sur la compréhension de notre société des conséquences peut-être indirectes, mais parfaitement réelles. Elle interdit tout simplement la mise à l'écart du pauvre ou de l'inutile, mais elle invite à travailler à son intégration, tant il est vrai que chacun a une valeur non pas en fonction de ses œuvres, mais parce que Dieu tourne vers lui son visage. Là encore, notre monde doit, sans en être bien conscient, beaucoup, je crois, à la réforme. Troisième volet, et j'ai bien conscience que ce survol est très rapide, les conditions de possibilité de la naissance de la tolérance. Je tremble ici en abordant ce dernier paragraphe sur ce que notre monde doit à la réforme, car je sais bien que les réformateurs m'en voudraient probablement encore plus d'en parler ici. Ni Luther, face aux paysans de 1524-1525, ni Zwingli, face aux anabaptistes qu'il faisait noyer dans la limate, ni Calvin, face aux libertins ou face à quelqu'un comme Servet, n'ont jamais plaidé pour la tolérance. Voyez, quand le consistoire de Genève entend dire, nous sommes au mois d'août 1563, qu'on vante en ville le conseil à la France désolée de Castelion, ce consistoire dénonce aussitôt ce livre comme étant méchant, c'est-à-dire mauvais, et plein d'erreurs. Or, Sébastien Castelion ne faisait dans ce livre que dénoncer la contrainte des consciences. Dans son texte, le forcement des consciences. Et Castellion se fondait notamment sur un texte même de Luther, tiré d'une prédication prononcée en 1525, et dont j'aimerais vous citer ici quelques lignes. C'est donc à nouveau Luther qui parle. « Regarde, comme depuis longtemps, nous nous sommes emportés, nous qui avons voulu contraindre à la fois les Turcs par l'épée, les contraindre à la fois, c'est F-O-I, nous avons voulu contraindre à la fois les Turcs par l'épée, nous avons voulu contraindre les hérétiques par le feu, les Juifs par la mort. Nous avons voulu arracher l'ivraie par nos propres forces, comme si nous prétendions régner sur les cœurs et les esprits. Nous voudrions les rendre pieux et justes, et cela, seul peut le faire la volonté de Dieu. » Fin de cette citation de Luther. Vouloir arracher l'ivraie avant l'heure, c'est là précisément la fureur du fanatique. Pour Castellion, vouloir contraindre l'autre à croire comme je crois moi-même, c'est enfreindre ce qu'on appellera bientôt au XVIIe siècle la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ou alors, selon les termes mêmes de Castellion, qu'on peut lire désormais sur le monument qui lui est consacré devant la porte du temple de Vendeuvre, apprenez de vos propres consciences à ne forcer celle d'autrui. Apprenez de vos propres consciences à ne forcer celle d'autrui. Castellion est un homme qui a conscience de la pluralité religieuse. Il y a pour lui deux solutions, soit les deux religions adverses en France se battent l'une contre l'autre, soit elles acceptent de coexister l'une avec l'autre. Or, et c'est là le plaidoyer de Castellion, il faut laisser, dit-il, les deux religions libres. C'est qu'à partir de la Réforme, il y a dans l'Europe latine au moins deux façons de se tenir désormais devant Dieu. Et le pragmatisme de Castellion, exprimé trop tôt, de toute évidence en 1562, sera celui qui, après 35 ans de guerre, sera exprimé par le roi Henri IV avec l'édit de Nantes de 1598. On pourrait ainsi parcourir toute l'histoire de la tolérance dans l'Europe du XVIe au XXIe siècle. Castellion marque un jalon important dans cette histoire. Après lui, il y a John Locke, dont le nom a été déjà mentionné, qui, à la fin du XVIIe siècle, pose la question de savoir ce qui empêcherait qu'un prince chrétien ait des juifs parmi ses sujets. Ouverture donc à la coexistence des religions. Et c'est dans ce courant d'histoire de la tolérance que Pierre Bayle, en France, ou plutôt en Hollande où il est réfugié, affirme en 1686, un an après la révocation de l'édit de Nantes, que la tolérance est la source de la paix. C'est dans ce parcours toujours qu'un siècle plus tard, au moment de la terrible affaire Calas, Voltaire dénoncera l'intolérance comme relevant, dira-t-il, du droit des tigres. Mais aussitôt Voltaire se corrigera, car les tigres, dira-t-il, ne déchirent que pour manger, tandis que nous, nous nous sommes exterminés pour des paragraphes. L'histoire de la tolérance doit beaucoup à la Réforme. Non pas que les réformateurs aient voulu la tolérance, mais ils ont, par leur pensée et leur action, contribué à créer les conditions de possibilité d'une pluralité religieuse en Europe. Or, c'est précisément cette pluralité religieuse qui a permis à la réflexion sur la coexistence, sur la tolérance, sur ce qu'après on appellera la liberté de religion et ce qu'à partir du XIXe siècle on nommera la laïcité, c'est cette pluralité religieuse qui a permis le développement de toute cette réflexion dont nous sommes aujourd'hui encore, malgré toutes les difficultés, les bénéficiaires. La réforme ainsi, et j'arrive à ma conclusion, est bel et bien l'une des composantes de notre monde moderne. Il faudrait être sot pour prétendre que la réforme est la modernité et que toute la modernité est à chercher dans la réforme. On pourrait donner un certain nombre d'exemples qui vont dans le sens adverse. C'est ainsi que la réforme est l'une des composantes de notre monde et que notre monde lui doit beaucoup. L'héritage de la réforme n'appartient pas ainsi seulement, mesdames et messieurs, à ceux qui aujourd'hui, confessionnellement, s'en réclament. Il appartient à l'ensemble de notre population en Europe et dans une bonne partie du monde. Rien qu'à ce titre, je crois qu'il vaut la peine, 5 siècles après la publication des thèses de Luther, de se rappeler et de rappeler à nos contemporains tout ce que notre monde doit à la réforme. Je vous remercie de votre attention.